chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la deuxième série, puisqu'il y a déjà eu une très importante première série concernant la guérison. Et dans cette deuxième série, nous sommes au numéro 38. Et le titre, la maladie, oui, il y en a qui pensent, la maladie est une croix que Dieu m'envoie. Bien des chrétiens aujourd'hui vivent en tenant compte de cette formule courante, Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. On entend ça un peu dans tous les langages. Helf dich selber und so kann dich Gott auch helfen. Pourquoi pas? Tout cela semble presque vouloir limiter le ministère chrétien actuel de guérison à toute chose que l'art de la médecine peut accomplir. La guérison par la prière, diront-ils, valait pour les âges primitifs. Mais maintenant, voyons, maintenant que nous comprenons mieux la réalité, nous pouvons réaliser, grâce à la médecine, ce que on avait l'habitude de réclamer par la prière dans une société pré-scientifique, ouverte au pouvoir de la suggestion. Avec une imprimante 3D, on peut aujourd'hui tout faire. Même bientôt construire un humain fonctionnel. Bon courage. Tout de même, je ne vois aucune raison de mettre la médecine en opposition à la guérison par la prière. En effet, quelques médecins pratiquent eux-mêmes un ministère qui coordonne la médecine et la prière. Des livres comme celui du docteur Paul Tournier, dont un de ses nombreux titres a été « Le dossier d'un médecin à la lumière de la Bible ». Ce sont des exemples de l'intérêt renaissant des médecines envers la prière, considérant qu'elle est en rapport avec leur profession. D'autres personnes soulèvent des objections et demandent pourquoi nous parlons de guérison d'individus alors que les guérisons les plus urgentes aujourd'hui sont celles des mauvaises relations sociales, de la communauté brisée, la guérison d'un monde tourmenté par l'injustice institutionnelle et la menace de guerre. Nous ne devons pas cependant opposer la nécessité d'une guérison générale avec celle de l'individu. Je ne connais aucun activiste concerné par la mission de justice sociale qui n'irait pas voir son médecin ou son dentiste s'il se sent mal. Et cela sous prétexte que l'autre problème d'ordre plus général le préoccupe. L'injustice ne pourra prendre fin que lorsque tous les membres de la société seront eux-mêmes entièrement guéris dans leur émotion afin qu'ils puissent avoir de saines relations et qu'ils n'agissent pas à travers des préjugés et les dommages du passé. Mais cela n'est, semble-t-il, encore pas pour demain. Chers amis, une des plus grandes pertes que le christianisme a subi et le déclin de tout l'héritage du pouvoir de guérison. Cette perte, cette incrédulité est la conséquence de la poussée de 5 préjugés de base envers la guérison que j'ai moi-même rencontré et observé à des degrés variables dans l'attitude de nombreux chrétiens de ma connaissance. Premièrement, nous n'avons rien à faire avec les guérisseurs par la prière. Quand j'incite les gens à prier pour la guérison, le premier obstacle que je rencontre très fréquemment est la comparaison stéréotypée qu'ils font entre le médecin ou plutôt le mystère de guérison et ceux qui guérissent par la prière. Ils ont une méfiance exagérée parce qu'ils n'ont jamais prié eux-mêmes en imposant les mains, jamais. Donc leur conception de la guérison est conditionnée par les seuls exemples de ce genre de prière qu'ils ont pu voir dans les émissions télévisées ou les cercles extrémistes qui poussent des clameurs et la foule devient souvent même hystérique. Ou bien dans les articles de presse qui représente un genre d'évangéliste exploitateur tel que Elmer Cantry, photographié les bras levés et les yeux vitreux. Ces expériences sont assez vivaces pour ternir le symbole de Jésus marchant parmi les malades, les touchant et les guérissant. L'image populaire de celui qui guérit par la prière a si complètement envahi notre imaginaire qu'il est difficile aux chrétiens des églises principales de concevoir la guérison dans un autre contexte, tout autant que le stéréotype des pentecôtistes rend le baptême du Saint-Esprit inacceptable pour bien des chrétiens, à moins qu'ils ne soient prêts à se défaire d'un préjugé ou deux. Nous ferions mieux de poser la question : le Christ était-il un guérisseur par la prière ? En lisant les évangiles, Saint Marc plus précisément, nous ne pouvons que être frappés par les références constantes au ministère de guérison du Christ, près de la moitié de la teneur des 8 premiers chapitres de Saint Marc est consacrée au récit de ses soins donnés aux malades. Et en effet, il avait guéri beaucoup de personnes, si bien que tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Notez Saint Marc chapitre 3 verset 10. Pouvons-nous imaginer cette scène? Abaisserions-nous le Seigneur lui-même en le cataloguant comme un guérisseur par la prière, envers lequel nous nous sentons supérieurs? S'il n'était pas un tel guérisseur, quel mot devrions-nous employer pour le décrire? Que nous trouvions le mot juste ou non, ministère de guérison par exemple, l'important est de retrouver, en effet, de retrouver tout l'héritage de la guérison qui appartient aux chrétiens et à l'Église. Dénigrer le ministère de guérison, à cause des manœuvres vipérines de certaines sectes, hein, n'a pas plus de sens que de critiquer l'exercice de la médecine à cause de la mauvaise prestation de quelques médecins. Dans tous les cas, la faute en incombe au ministère, donc les pasteurs, ou à la façon dont le ministère est effectué, pas à la validité du ministère lui-même. Il y a des chrétiens très sincères, même, on peut dire, d'adorables nonnes et des moines, qui disent, il y a des chrétiens qui croient comme d'autres qui ne croient pas. Et ils sont, ce qu'ils disent, très religieux. Être très religieux, c'est pas forcément être ce que l'évangile de Saint Jean nous démontre. Deuxièmement, il y en a qui disent « Ma maladie est une croix que Dieu m'envoie ». Je répète, « Ma maladie est une croix que Dieu m'envoie ». Avoir la conviction que Dieu nous inflige la maladie est une attitude qui dévalorise l'idée de guérison divine. Avec une telle opinion, demander la guérison, c'est s'opposer à la volonté de Dieu et refuser de porter la croix qu'il nous offre. Même si on reconnaît qu'il est permis de demander un répit dans cette optique, il vaut beaucoup mieux pour le malade d'accepter et de supporter sa souffrance. Endurer est plus héroïque et plus dans l'esprit chrétien. Si vous voulez être saint, disent-ils, et c'est ce qu'ils prétendent certains, alors vous devez vous attendre à la souffrance et à la maladie. Cette insistance malvenue au sujet de la croix et des avantages de la souffrance a largement remplacé la confiance et le désir de guérison chez beaucoup de chrétiens des principales églises. Cela a sûrement influé sur les bonnes paroles au sujet de la maladie. Les pécheurs ont trop souvent présenté la maladie comme un effet de l'amour de Dieu qui rend chaste plutôt que comme un facteur du royaume du mal. Au contraire, l'enseignement traditionnel chrétien insiste sur l'idée que la maladie est la conséquence d'un péché originel, en d'autres termes, un ingrédient de notre condition humaine déchéante que Jésus est venu racheter. Notre attitude devant la maladie, demander à Dieu de la supprimer ou l'accepter comme étant sa volonté, est un problème si important qu'un CD entier ne suffirait pas. C'est sûr, car voyez-vous, si je crois vraiment que Dieu m'a envoyé cette maladie pour éprouver mon amour, bien entendu, je ne vais pas prier pour en être débarrassé. J'étreindrai plutôt cette croix et refuserai de me permettre aucun soulagement. Cependant, oui, cependant, nulle part dans l'Évangile, nous ne voyons que le Christ appelle les gens à vivre avec leur maladie. Bien au contraire, ils traitent la maladie comme une manifestation de l'empire de Satan qu'il est venu pour détruire. Troisièmement, il y en a qui disent « Il appartient aux saints de faire des miracles et je n'en suis pas un. » Ça, c'est une attitude qui semble caractériser en particulier les catholiques, par exemple. Selon les traditions de certaines églises, la guérison des lépreux, infection visible, est considérée comme une preuve du désir de Dieu de guérir l'infection que est le péché elle-même invisible. Ou bien encore, si la guérison survient grâce aux prières de quelqu'un, cela peut être un signe qu'il ou elle est un saint extraordinaire. Si plusieurs guérisons ont lieu, cela peut signifier que la personne est un candidat pour la canonisation ou que c'est quelqu'un dont on devrait admirer et imiter la vie chrétienne, comme Padre Pio. En conséquence, pour des gens ordinaires comme vous et moi, prier pour le malade serait certainement faire preuve de présomption et d'orgueil. La déclaration du Christ, telle que saint Marc la rapporte dans la partie finale de son évangile, est très encourageante. Là, il est dit, dans saint Marc, chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. » Donc, il ne dit pas « Voici les miracles qui marqueront la vie des saints, mais des croyants. » Je répète, « Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants et non pas qui marqueront la vie des saints. » Mon propre problème avec la guérison était en réalité une fausse humilité. Au nom de cette vertu, nous avons involontairement enlevé de notre existence la vie même et la puissance que le Christ était venu nous apporter. En baissant la tête et en disant « Seigneur, je ne mérite pas. » Là, nous ne prions plutôt mal, nous privons de la joie de prier avec nos amis malades. Et ça, de manière que le Christ puisse les guérir. Quatrièmement, certains chrétiens disent, nous n'avons plus besoin de miracles et de prodiges, car nous avons la foi. Autre attitude, celle de supériorité envers la guérison, qui soutient que les miracles étaient nécessaires à l'Église primitive pour la faire démarrer. Mais maintenant, voyons, maintenant que l'Église est bien lancée, que tous les chrétiens comprennent le message évangélique, il n'y a plus besoin de miracles et de preuves. Cette attitude est le résultat de l'insistance exagérée sur une doctrine. Cela suppose que la guérison des malades ne se produit pas en premier lieu parce que le Père est plein de compassion et désire guérir l'humanité brisée, mais parce qu'il veut marquer un point. À présent qu'il l'a fait, avoir une foi dépouillée de signes extérieurs est beaucoup plus parfaite. Les primitifs avaient besoin d'accessoires, mais l'Église contemporaine, dans sa maturité, ne nécessite plus des encouragements de cette sorte pour croire. Certains groupes chrétiens ont même établi un dogme à ce sujet, c'est le dispensationnisme. Je répète, le dispensationnisme. Et ils affirment que le temps des miracles est absolument révolu. Dans cette optique donc, tout miracle signalé de nos jours serait une supercherie. Bien sûr, la guérison est la marque d'une réalité supérieure et notre foi ne dépend pas des miracles et des prodiges, même si ceux-ci retiennent notre attention et peuvent nous aider à construire notre foi. Mais cependant, la guérison des miracles est une chose à rechercher pour elle-même. La guérison n'est-elle seulement qu'un facteur de preuve pour l'intelligence humaine, ou bien est-ce la miséricorde de Dieu qui s'étend sur les malades? Les malades ont besoin de guérir. Oui, nous avons besoin de guérir. Il y a des chrétiens qui ont la conviction que, cinquièmement, que les miracles n'existent pas réellement. Ils ne représentent qu'une façon primitive d'exprimer la réalité. Malgré la gravité de ces quatre premiers obstacles à la prière de guérison, ils ne s'attaquent pas encore à la possibilité même du mouvement de Dieu et à sa puissance directe de guérison. Mais certaines tendances courantes d'opinions diverses refusent même cette possibilité. Auprès de la grande avance de la connaissance moderne biblique, quelques auteurs tendent à considérer tout ce que contient l'Évangile en termes purement primitifs et séculiers. Eh bien, cette démythification exagérée voudrait mettre en question tout simplement la possibilité d'un Dieu qui intervient directement dans l'histoire et dans nos vies. Elle voudrait dénier toute guérison accomplie par des moyens autres que ceux de la science médicale. Une telle conception suppose que les gens des premiers âges ne pouvaient expliquer scientifiquement les mystères de l'univers et croyaient que tout ce qu'ils ne comprenaient pas était le fait de Dieu ou d'esprit. La pluie, par exemple, était due à un dieu de la pluie, et le chaman indigène pouvait l'amener en invoquant ce dieu. Mais maintenant, nous avons mûri en dehors de cette naïveté primitive, non scientifique, et nous savons que Dieu œuvre par le moyen des causes naturelles. Croire en la guérison au-delà de ses pouvoirs du monde naturel, c'est retourner à un genre de religion primitive mal adaptée à notre monde moderne. Il est vrai que les peuples primitifs étaient excessivement superstitieux et attribuaient souvent des phénomènes mystérieux à des forces mythologiques, mais nous n'avons pas à rejeter entièrement la possibilité du surnaturel. Mon impression, en côtoyant quelques soi-disant cultures primitives, c'est alors que leur religion est empreinte de superstitions. Elles sont bien plus que nous en contact. Je répète, ces gens sont bien plus en contact avec le véritable monde spirituel que nous. Ce fut un vrai choc pour moi d'en venir à cette constatation. Une fois que nous commençons à nous demander si le Christ lui-même possède réellement un pouvoir sur les forces de la nature, nous devrions alors nous interroger franchement sur la manière dont sa prière pourrait effectivement accomplir des miracles aujourd'hui. Une telle pensée détruit l'idée même de voir la guérison s'effectuer en dehors des procédés naturels. Elle relègue la guérison divine à l'ère de la religion primitive. J'ai décrit dans diverses discussions des exemples de guérison véritable dont j'ai été le témoin parce que j'entendais qu'on les expliquait comme des suggestions psychologiques. Des mots comme ceux qui suivent portent atteinte à la discussion avant qu'elle ne commence, à moins qu'il ne soit contesté. Ils disent par exemple « Je ne crois pas en un Dieu imprévisible qui intervient sur la nature et joue les favoris. » Ou encore « Je ne crois pas plus à un Dieu lointain qui se transforme comme une divinité païenne. » Des remarques comme celle-ci supposent que ceux qui croient en la guérison croient également en une sorte de Dieu primitif qui habite les cieux. Ma propre impression est que lorsque quelqu'un a connu l'amour et le pouvoir guérisseur de Dieu, il ressent en lui sa présence, celle du Dieu immanent, le Dieu qui œuvre dans sa création et à travers elle. Loin d'imaginer que Dieu est distant, je le perçois comme étant plus présent que jamais. Dieu a plusieurs manières d'intervenir dans notre vie. Limiter son pouvoir en disant qu'il n'agit que à travers la nature, c'est vraiment le faire apparaître comme une entité lointaine et impersonnelle. En effet, prétendre que Dieu ne guérit pas, c'est le placer à l'extérieur et le prendre pour une puissance impersonnelle bien moins impliquée dans notre vie que ne le serait n'importe quel être humain compatissant. Les évangiles déclarent que lorsque Jésus envoya ses disciples pour porter la bonne parole, il les instruisit de manière à soigner les malades et à leur dire ensuite « Le royaume de Dieu est près de vous. » Saint Luc chapitre 9 et chapitre 10. Les gens répondent de la même manière aujourd'hui quand s'opère une guérison. Le Christ est tout près. Son royaume est proche de nous à présent. Toutefois, bien des chrétiens n'ont jamais vu une guérison intervenir en réponse à une prière, évidemment, donc, ils excluent cela de leur spiritualité. Il n'est pas étonnant qu'un tel manque de confiance en le pouvoir de la prière amène les gens à se demander si Dieu a réellement un pouvoir quelconque. S'il a vraiment un pouvoir, disent-ils, pourquoi ne l'exerce-t-il pas? Se préoccupe-t-il vraiment de nous? S'il a effectivement un pouvoir, mais qu'il n'existe que dans le processus humain, sommes-nous vraiment certains qu'il existe? Chers amis, je me souviens à ce sujet de la parabole de l'ennemi qui est venu semer des mauvaises herbes dans le champ de blé pendant que le fermier dormait. Pour utiliser la liberté de la poésie, je m'imagine le fermier comme les chefs dans une église, le froment et la bonne nouvelle que le Christ est venu porter, la liberté aux captifs et la guérison pour tout être humain. Pendant la nuit, l'âge des ténèbres, l'ennemi est venu semer un réseau serré de graines qui ont étouffé jusqu'à l'espoir de faire une moisson de blé. Au lieu de la bonne nouvelle de guérison, une multitude d'arguments nous incite à retourner à l'acceptation de la maladie, la mauvaise nouvelle. C'est donc cela, et ces arguments sont du genre suivant. Voyez-vous, normalement, Dieu ne désire pas de guérir. Pour la plupart des gens, la souffrance et la maladie sont le fait de sa volonté. L'attitude convenable pour un chrétien est d'accepter ne pas prier pour être soulagé. Dieu nous envoie cette croix spécialement conçue pour vous. Ne la rejetez surtout pas, car elle vous donnera une gloire plus grande dans votre prochaine vie. En rapport avec tout cela, disons premièrement, même si Dieu guérit le malade à l'occasion, ce ne sera pas grâce à vos prières, car vous n'êtes pas assez bon. Après tout, vous n'êtes pas sacré, vous n'êtes pas un saint. Et deuxièmement, s'il pouvait être démontré que Dieu guérit bien certaines maladies, peut-être à l'occasion, alors vous devriez être au-dessus de ce genre de spiritualité primitive. Vous ne voudriez pourtant pas être associé à ce genre de religion hyper-émotionnelle et qui prétend rendre des forces que l'esprit populaire relie aux guérisseurs inquiétants par la prière. J'espère que votre façon de voir est bien plus pure, plus intellectuelle que cela. Vous n'avez pas besoin de preuves et de miracles pour croire. Votre foi ne dépend pas de ce genre d'évidence que nécessiterait une personne avec moins de spiritualité que vous. Vous n'avez pas besoin de soutien spirituel. Vous pouvez accepter la maladie, de préférence à la guérison. Si Dieu vous en offre l'alternative, vous choisirez plutôt la route élevée, c'est-à-dire la voie royale de la croix, et en optant pour la voie suprême de la souffrance. Donc, en rapport avec la nature même de la guérison, les miracles de guérison ne sont que des réminiscences de l'âge des explications pré-scientifiques. Il est donc temps d'oublier cette vision superstitieuse de la réalité et de continuer l'ouvrage véritable à notre portée. Le christianisme a besoin d'être purifié de ces éléments surnaturels qui n'ont rien à voir avec l'état actuel de notre développement intellectuel et spirituel. En bref, à cause d'un changement dans notre vision universelle de Dieu, de nous-mêmes et de la nature de la réalité, nous nous coupons de la possibilité de croire en la guérison par ces arguments qui portent préjudice à la guérison. Chers amis, il me semble que toutes ces attitudes obscurissent ou dévalorisent complètement la bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter. Nous sommes en train d'assister à un renouveau à grande échelle du don de Dieu pour la guérison qui n'a jamais été vu en quelque sorte dans les églises, et cela depuis des temps apostoliques. C'est, je le crois, l'œuvre d'un Dieu aimant qui a de la personnalité et qui désire parer à notre foi décroissante. Si nous dénions à Dieu le pouvoir actif de guérison, nous manquerons bientôt de constater son amour personnel pour nous. Si nous doutons que Dieu nous aime réellement, cela fait-il une différence, que nous croyons en lui ou pas? Pour finir, nous pourrions nous demander si vraiment Dieu existe véritablement. Chers amis, voyez-vous, vous, ou plutôt nous, devons ici jamais oublier. Je répète, nous devons jamais oublier que le message fondamental du christianisme, que Jésus sauve, est vraiment une réalité. Quand j'entends cette phrase « Jésus sauve », je me rappelle les panneaux d'affichage qui portent de maigres inscriptions, et cela le long des routes de campagne. Je me rappelle aussi cet incident désagréable lorsqu'un évangéliste de la rue m'avait agrafé pour me demander « Frère, es-tu sauvé ?» Ces malencontreuses expériences de l'insensibilité ne peuvent malgré tout modifier ce qui me tient à cœur, comme pour tout chrétien. Oui, Jésus sauve. Mais que veut dire réellement Jésus sauve? En quoi cela peut-il affecter ma vie? Notre divin sauveur, notre rédempteur béni, voyez l'agneau de Dieu qui écarte, qui ôte les péchés du monde. Ces phrases peuvent devenir si familières que les mots perdent le pouvoir de nous émouvoir. Elles peuvent devenir le pieux cliché qui est vide de force. De quoi au juste Jésus me sauve-t-il? La tradition chrétienne enseigne ordinairement que Jésus nous sauve de nos péchés personnels et des conséquences de notre humanité décadente, ce qui englobe l'ignorance, notre faiblesse de volonté, les émotions désordonnées, la maladie physique et la mort. Un peu de cette liberté sera déployée dans la vie profonde uniquement après notre résurrection. Mais le processus commence dès maintenant. Oui, le règne du ciel est proche. Saint Matthieu chapitre 10, verset 7. Jésus nous délivre, écoutez bien, de l'ignorance et du péché. Or l'Esprit Saint, il vous conduira vers la vérité toute entière. Saint Jean chapitre 16, verset 13. De la faiblesse de notre intention, de nos émotions désordonnées, et de la maladie physique, oui, de toute maladie. Par conséquent, qui détruit ou amoindrit notre personnalité d'êtres humains de manière à nous donner une vie nouvelle, une relation nouvelle d'amour et d'union avec son Père grâce au pouvoir du Saint-Esprit. Le pouvoir qui sauve de Jésus nous délivre de tous les facteurs du mal qui nous empêchent d'entrer dans notre vie nouvelle avec Dieu. Jésus est donc venu faire deux choses essentielles. Premièrement, une chose positive, c'est de nous donner une vie nouvelle, une relation d'amour dans l'union avec son Père et lui-même par le Saint-Esprit. Et deuxièmement, vaincre le négatif en enlevant les obstacles à cette vie nouvelle. Jésus nous guérit et nous délivre, nous sauve des éléments malades de notre personnalité qui ont besoin d'être améliorés afin que la vie nouvelle puisse entrer librement en nous. Ceci évidemment représente le message stupéfiant de la bonne nouvelle. Mais le danger est, et il a toujours été, que nous n'en fassions qu'une simple doctrine, une vérité à admettre. Et trop souvent, nous ne savons pas comment laisser cette réalité, la puissance qui sauve de Jésus, pénétrer le cœur même de notre être. Mais la prière est simplement l'application pratique du message de base pour le salut chrétien, la conviction que Jésus propose de nous délivrer de nos péchés personnels et de nos maladies physiques et émotionnelles. Pourtant, est-ce que Jésus essaie de nous guérir de ces démons dans notre vie présente? Ou bien est-ce que la guérison appartient seulement à la vie future, quand Dieu séchera de leurs yeux les larmes? Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus d'affliction, de pleurs et de douleur. Révélation, donc Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Je crois que pour une compréhension parfaite du message de Jésus-Christ, il faut que nous étudions s'il est venu nous délivrer dans cette vie même de la maladie et de la confusion des émotions qui sont, depuis la création du genre humain, considérées comme les conséquences du mal, donc du péché originel. Pour comprendre le point de vue chrétien au sujet de la guérison, nous devons entrer plus profondément dans la signification de Jésus sauve, dans l'objectif de sa mission et de la nôtre. Nous avons le nom de Jésus. Les anciens Hébreux accordaient une grande importance au choix d'un nom pour le nouveau-né. Le nom indiquait souvent le rôle que l'enfant allait tenir dans la famille ou dans l'histoire de son peuple. Le fils du prophète Isaïe, par exemple, s'appelait Shear Yashub, un reste qui reviendra. Ça veut dire un reste qui reviendra. Et ce nom symbolisait les gens qui, après l'époque d'Isaïe, reviendraient de l'exil et du blâme. Plus tard, Jean-Baptiste s'est vu attribuer un nom par ordre de Dieu et non selon le désir de ses proches. C'était un signe que la vie de cet enfant serait bien plus qu'une vie ordinaire, qu'il avait été choisi depuis sa naissance pour jouer un rôle unique dans le plan du salut. Pas étonnant donc que lorsque Dieu est venu habiter parmi nous par Jésus-Christ, il choisit un nom qui indiquerait qui il était et quelle était sa mission. Saint Luc nous raconte que l'ange Gabriel apparut à Marie et lui dit « Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. » Saint Luc, chapitre 1, verset 31. Le mot « Jésus » ou « Yeshua » signifie en araméen « Yahvé est le salut ». Bien que ce nom ne soit pas inhabituel à cette époque-là, Jésus proclame son message, celui qui est le Messie, le béni ou le Christ. Est-ce le Messie? Oui, c'est le Messie, le béni, c'est le Christ. Cela signifie en parole et en action, Yahvé est le salut. En fait, Jésus concevait sa mission en ces termes précis. L'époque du Messie serait une époque de guérison et de salut. Les Hébreux ne pensaient pas à faire la distinction entre le corps et l'âme dans l'être humain. Ils les considéraient plutôt comme faisant partie de la seule et même personne. Quand il parlait de guérison, donc, il pensait non seulement au salut de l'âme, mais aussi à la guérison de la personne. Et la personne, cela comprend notre corps et nos sentiments. Quand Jésus, Yahvé et le salut, commença à prêcher, il exprima clairement ce pourquoi il était venu. Saint Luc décrit comme Jésus, dans son tout premier sermon, affirma avec audace sa mission de guérison. Il arriva à Nazareth où il avait été élevé et comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi, il m'a consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. » Ensuite, il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, dit-il, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Saint Luc chapitre 4, verset 16 au verset 21. Saint Luc continue en disant que quelques-uns qui l'écoutaient étaient sceptiques, pas au sujet de son message, mais au sujet de ce qu'il n'avait pu faire. Fais donc dans ta propre ville les grandes choses que tu as accomplies à Capernaum. Saint Luc chapitre 4 verset 23. Plus tard, quand Jean-Baptiste envoya ses disciples demander à Jésus s'il était le Messie, Jésus leur fit encore observer que ses œuvres de guérison étaient un signe qu'il était bien le Christ. Notez Saint Luc chapitre 7, versets 20 à 23. Il est dit là, dans Saint Luc chapitre 7, ces hommes se présentèrent à Jésus et lui dirent « Jean-Baptiste nous envoie vers toi pour te demander « Es-tu celui dont la venue a été annoncée d'avance ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Or, au moment où ils arrivaient, Jésus était en train de guérir plusieurs personnes de diverses maladies et d'infirmités. Il délivrait les possédés et rendait la vue à plusieurs aveugles. Il répondit aux envoyés « Retournez auprès de Jean et racontez-lui simplement ce que vous avez vu et entendu, que les aveugles retrouvent la vue, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et aux malheureux. Heureux celui qui ne perd pas sa confiance en moi. » Saint Luc chapitre 7 verset 20 à 23. Nous devons également remarquer que Saint Marc, le premier peut-être à écrire l'Évangile, consacre beaucoup de textes aux épisodes de guérison du ministère de Jésus et bien moins à son véritable enseignement. Aujourd'hui, nous reconnaissons que les miracles accomplis par Jésus ne sont pas seulement des preuves de son caractère divin et des garanties que ses paroles sont justes et inspirées par Dieu. Nous nous rendons plutôt compte que les miracles étaient l'action même de Dieu présent dans la vie et dans les travaux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Les œuvres de guérison de Jésus constituait en elle-même le message qu'il était là pour délivrer les hommes, non pour démontrer simplement que son message était véridique, mais dans son sens très primaire. Jésus est le véhicule de son propre message. Si les gens sont réellement sauvés, ça veut dire aussi ressuscités et pardonnés, ainsi que libérés, ceux-ci sont tous les aspects de l'être humain sauvé. Ce n'est pas seulement une marque extérieure que les bonnes paroles de Jésus sont véridiques, elles sont aussi un signe extérieur. Il parle de gens qui sont délivrés et qui entrent dans le royaume de Dieu. Les gens sont réellement sauvés quand ils ressuscitent, qu'ils sont pardonnés, qu'ils sont délivrés et qu'ils sont guéris. Bref, je pense que la plupart des chrétiens pensent au fond, la guérison n'est pas seulement un signe que les paroles de Jésus au sujet du salut sont véridiques, la guérison dans sa plus grande dimension est le salut qui a lieu ici même et maintenant. Les paroles amènent à le croire et l'expliquent après coup, mais le centre même de tout cela, c'est l'action qui sauve de Dieu. Le fait donc que Jésus appelle ces guérisons travaux plutôt que miracles constitue une nette indication qu'il n'insiste pas sur le caractère miraculeux, mais sur l'aspect ordinaire de son ministère de guérison. C'est pour ainsi dire une chose qu'il doit faire normalement. Cela fait donc partie intégrante de sa mission. Le savant David Stanley explique dans un de ses ouvrages « La preuve la plus convaincante que les miracles de Jésus ne sont pas faits pour impressionner les lecteurs des évangiles par le prodigieux uniquement se trouve dans le vocabulaire employé pour désigner ses actions. Il n'y a que deux ou trois exemples ou plus de l'utilisation de ce qui s'approche de notre mot « miracle ». S'il existe un aspect des actes de guérison de Jésus qui s'efface dans les évangiles, c'est bien la capacité de ses actes à susciter l'émerveillement. Dans les évangiles synoptiques, ils sont ainsi désignés comme étant des actes de puissance, dynamisme. Des actes de puissance, donc dynamisme. C'est un terme qui accentue leur caractère de manifestation de la puissance divine, d'où leur justesse, pour constituer avec ces paroles une espèce de véhicule pour la proclamation de Jésus de la venue du règne de Dieu. Ces actes sont simplement présentés comme étant la bonne nouvelle en action. Malheureusement, dans les interprétations anglaises du Nouveau Testament, la plupart des versions traduisent le mot grec mis pour acte de puissance en miracle. Cela implique quelque chose d'extraordinaire et de rare. Ce sont, écoutez bien, des actes de puissance. Amen. Chers amis, nous terminerons par la prière. La prochaine étude, il y en a encore, numéro 39, aura comme titre « Quelle est la mission des disciples ?» Pour aujourd'hui, nous terminons ici et nous allons donc, comme je l'ai dit, prier ensemble. Prions. Père, c'est un autre jour pour moi. Mais pour toi, c'est toujours le même moment intemporel de ton amour vigilant. Je suis là et tu es là. Si je te parle pendant 1000 ans, je ne pourrai épuiser l'histoire d'une chose, celle de ton amour. Ainsi, je ne dirai pas grand-chose, mais j'écouterai plutôt ta voix éternelle qui dit « Sois calme et sache que je suis Dieu qui vit en toi par le Saint-Esprit. Je ne t'ai jamais abandonné. » Et avec cette assurance, ô Seigneur, j'affronte le jour avec plaisir. Par cette force, j'irai de l'avant. J'entends aujourd'hui avec impatience le renouvellement de ma santé, une plus grande force, une recréation des os, des cellules et des tissus. Fais croître en moi cette espérance pour que je puisse te comprendre avec foi et non seulement avec anxiété, et que mon attente de tes promesses soit ferme jusqu'au soir. Et aide-moi à être de plus en plus conscient de ta plénitude en moi, jusqu'à ce que je comprenne comme je suis compris par toi. Amen. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et merci de l'intérêt que vous portez à ces études. Pas toujours facile, mais vous pouvez réécouter une étude quand cela est nécessaire. À bientôt, à demain matin, Dieu voulant. Au revoir, chers amis.